maximum.
Attends, ah c'était pas quoi ça.
Dans cette pièce. Bon, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir M. Risset. C'est notre première séance. Nous l'inaugurons avec un représentant de la physique de l'école normale. Et M. Risset est agrégé de physique récemment et il travaille dans des travaux de recherche qui sont intermédiaires entre la physique pure et jusqu'à la physiologie et la musique. Il a lui-même complété sa culture générale par des travaux de recherche déjà de musique, de composition. Enfin, il a fait des études musicales également, ce qui lui donne les deux points de vue que nous essayons ici de rapprocher. Il ne peut pas être mieux choisi pour entamer nos discussions annuelles. Et alors, il vient complémentairement d'effectuer un stage, enfin mettons un séjour, en Amérique d'un an, dans la Bell Telephone, en vertu des accords internationaux classiques. Et il a pu constater dans cet énorme service de recherche que vous connaissez tous, non au moins, l'esprit et les matières des recherches qui sont traitées. Alors, je crois que sur le sujet un peu délimité qui va nous traiter ce soir, vous verrez apparaître au fond ses impressions personnelles et également au fond l'allure générale des recherches américaines sur ces questions de reproduction des sons et de fabrication des sons synthétiques, ainsi également, peut-être à titre documentaire, des compositions électroniques de la musique dont nous avons déjà parlé ici. Alors je lui passe tout de suite la parole parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pourrais vous dire.
Merci beaucoup monsieur le professeur Sistrin et monsieur Lepp de venir ici. Alors je vais faire un exposé probablement assez décousu et je vais tâcher d'éviter les aspects techniques, mais je voudrais tout de même que vous posiez soit des questions pour expliquer ce que peut-être j'aurais dit très confusément, ou bien éventuellement aussi pour me demander d'insister sur tel ou tel point qui sera peut-être plus intéressant pour beaucoup d'entre vous. Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord en guise d'introduction, c'est que après un séjour d'un an aux États-Unis, on revient en général de là-bas, enfin, en tout cas dans les conditions où j'étais, on revient très enthousiaste. J'étais parti un petit peu, enfin, je dirais pas contre-cœur, mais presque. Et je dois dire que, vous savez, les États-Unis, c'est connu pour un développement culturel, une efflorescence technique extraordinaire, un développement tout au moins scientifique et technique extraordinaire. Et on a l'impression, souvent, vu d'Europe, qu'il correspond à un niveau culturel qui restait un petit peu en arrière, que les Américains sont peut-être un petit peu les nouveaux riches de la culture. Enfin, c'est l'impression qu'on perd assez vite en allant là-bas. On est très impressionné par un dynamisme extraordinaire qui se manifeste actuellement dans la culture, et en particulier dans le domaine de la musique, vraiment avec beaucoup de vivacité. Par exemple, il y a des quantités de concerts qui sont organisés non seulement à New York, mais dans des villes comme Philadelphie, comme beaucoup plus petites villes, comme Buffalo, qui a un excellent orchestre symphonique. Ces concerts sont entièrement loués au début de l'année, pratiquement. Et alors, il y a vraiment un intérêt pour la musique qui se manifeste un petit peu à tous les échelons, et à laquelle probablement n'est pas étrangère une politique d'enseignement qui vraiment ne néglige pas la musique, ne la considère pas comme un art mineur, mais va jusqu'à lui attribuer une part égale à celle d'autres disciplines, comme les disciplines scientifiques. Par exemple, une chose dans les universités américaines qu'on peut faire, c'est de faire des études de musique et mathématiques. On peut prendre ces deux choses-là. Évidemment, ça n'existe pas en France. La part de la musique dans les universités françaises est pratiquement nulle, enfin, pas, je veux dire quantitativement. Et alors que là-bas, chaque université importante a un département de musique où l'on enseigne non seulement la musicologie, mais l'écriture, mais souvent les instruments. Et par exemple, ces départements de musique dans les universités constituent un cadre où l'on peut faire vraiment beaucoup de choses dans le domaine de la musique et de l'acoustique musicale, parce qu'en plus, il y a une grande ouverture d'esprit et dans beaucoup de domaines, on arrive à empiéter sur le domaine proche. Par exemple, il y a des gens qui ont fait physique et musique, ou mathématiques et musique, et évidemment, ces gens-là, sans préjuger de leur spécialisation définitive, certains deviennent compositeurs, comme Milton Babbitt, ou bien d'autres continuent à être vraiment des scientifiques, Mais c'est vraiment une situation au départ qui est très, très favorable pour la rencontre entre les scientifiques et les musiciens. Alors, je vais quand même pas vous parler de la vie musicale aux États-Unis parce que ce serait un petit peu trop long. Enfin, je veux dire, tout de même, cette impression extrêmement favorable de, d'activité, d'intérêt et de jeunesse, vraiment. Et alors, ceci joue dans les domaines, aussi bien enfin, dans différents domaines. Par exemple, là-bas, on n'a pas l'impression que le jazz est un produit commercial comme il est plus ici. Évidemment, ça, c'est le berceau du jazz, c'est une autre question. Mais d'autre part, depuis l'avenue aux États-Unis de gens comme Varèse en particulier, qui est évidemment une personnalité considérable là-bas, et qui a quitté Paris, il faut bien dire, à contre-cœur au début, mais parce qu'il ne trouvait pas là-bas les possibilités qu'on lui a offert de bon cœur aux États-Unis. Il n'y a pas que Varèse, il y a Stravinsky qui s'est fait citoyen français, et puis enfin, la circonstance est un peu spéciale. Il s'est présenté à l'Institut, il a été refusé. Mais enfin, il est vrai qu'il y avait des conditions, circonstances un peu spéciales. Schoenberg est passé à Paris, fuyant le régime nazi, et il a tenté de trouver un poste d'enseignement. On ne lui a rien proposé. Il est parti en Californie. Darius Milhaud passe un an en Amérique, un an sur deux, je crois, en Amérique. Enfin, il y a d'autres compositeurs comme Krennec, enfin beaucoup d'autres, qui sont établis là-bas. Et puis alors, il
pas la peine de parler
des chefs d'orchestre, parce que Pierre Monteux, Charles Munch, Paul Paré, Jean Martineau sont américains, soit de nationalité, soit en tout cas de fait. Alors, ça vraiment, c'est une impression générale qui s'impose beaucoup quand on va là-bas. Et il y a un esprit de recherche aussi dans la jeune musique qui tente là-bas, comme les arts d'ailleurs en général. La jeune musique américaine essaye d'être indépendante depuis assez peu de temps et ça se manifeste par des recherches extrêmement poussées dans des domaines aussi différents que, par exemple, le formalisme très strict de Babbitt, qui est un musicien, enfin, accusé de musicien mathématicien, d'un point de vue. Et par contre, les théories de Cage qui veulent donner beaucoup de part au hasard. Et ce qu'il y a de certain, c'est que ces gens-là sont en général très sincères et ils rencontrent des moyens. Par exemple, Babbitt est en même temps professeur de composition. Il est professeur d'université à l'université de Columbia et à l'université de Princeton. Bon, alors, je crois que c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Je crois que pour les gens qui voudraient des choses plus précises sur ce problème, il y a le critique français Claude Samuel qui est allé aux États-Unis il y a un an et dans un but réellement d'étudier cette vie musicale en Amérique comparée à la vie musicale, mettons, en Europe, et qui a rapporté de là-bas des données très précises et exactement, je crois, la même impression que moi. Enfin, c'est-à-dire qu'il était extrêmement emballé par ce qui se passait là-bas. Et il a fait une série d'articles, certains dans le guide du concert, certains dans Informations et Documents, c'est une revue, je crois. Où, éventuellement, vous pourriez trouver des chiffres à l'appui ou bien des exemples sur la structure musicale là-bas qui sont assez convaincants. Bon. Alors, l'acoustique musicale, au fond, M. Lepp a bien montrer ici, je crois, au cours de diverses séances, que c'est une science renaissante qui, certainement, est très ancienne, mais qui, au fond, a fait des progrès récemment très, très significatifs, surtout significatifs pour les musiciens. Parce que, mon Dieu, même du temps de Boisse, où il se faisait certainement des choses très astucieuses du point de vue acoustique, ben, ce que faisaient les acousticiens n'intéressait pas du tout les musiciens, et les acousticiens de leur côté s'intéressaient pas du tout non plus à ce que faisaient les musiciens. Alors après tout, c'est quand même un petit peu curieux, parce que les musiciens, c'est leur métier d'exploiter au mieux, mon Dieu, un sens qui est le sens auditif, le sens de l'audition, et dans ces conditions, s'ils sont reconnus par leurs confrères musiciens, disons par exemple, c'est-à-dire par des gens dont c'est le métier également, il y a des chances qu'ils fassent ce qu'ils font pas complètement au hasard. Ils sont pas toujours capables de l'expliquer, il leur manque sans doute la terminologie, une terminologie scientifique, mais enfin, il est certain que les acousticiens ne peuvent pas purement et simplement ignorer ce que font les musiciens. Ça, Monsieur Lep a donné ici de très nombreux exemples, et puis divers conférenciers qui sont passés ici l'ont fait également. Et il faut dire que si les physiciens commencent à être d'accord avec les musiciens, c'est-à-dire reconnaître que les musiciens sont en fait des gens qui se débrouillent très bien et auprès de qui les physiciens ou les physiologistes ont parfois à apprendre, c'est parce que récemment il y a eu tout de même un développement technique qui a permis aux physiciens d'avoir un appareillage beaucoup plus fin pour les mesures acoustiques. Bon, alors j'ai été personnellement au Bell Telephone Laboratories, qui c'est un gigantesque laboratoire qui est le laboratoire, en somme le banc d'essai des téléphones, mais qui ne se limite pas à ça, enfin qui est en fait un laboratoire de recherche, on pourrait dire presque comparable, enfin tellement vaste, comme qui fait des recherches dans des sujets tellement divers qu'au fond c'est assez comparable presque au Centre National de la Recherche Scientifique, tout au moins dans la partie recherche fondamentale, enfin. En tout cas, par exemple, c'est de là que sont sorties des choses aussi diverses que le transistor, théorie de l'information, enfin bien d'autres choses, les satellites de télécommunication et d'autres choses encore. Et alors, il faut dire qu'en plus, les recherches qui sont faites au Bell Telephone Laboratories sont souvent au carrefour de plusieurs disciplines. Et ce qui entraîne, presque par nécessité, une ouverture d'esprit chez les chercheurs qui, évidemment, est un facteur très favorable. Alors, il y a quelques années, on a annoncé au Bell Telephone Laboratories les premiers essais de musique, non pas composée, mais jouée, pour ainsi dire, avec des calculateurs électroniques. Le terme n'est pas tout à fait exact, mais enfin, en somme, on a récemment utilisé les calculateurs électroniques pour jouer de la musique, comme instrument de musique en somme. Alors je crois que c'est surtout de ça que je vais parler. Et évidemment, on ne s'étonne pas que les Bell Telephone Laboratories utilisent des machines électroniques, les IBM, enfin ces grands cerveaux géants dont on parle beaucoup. Seulement, on s'étonne beaucoup plus qu'ils s'en servent pour faire de la musique. Alors, ça peut paraître assez curieux, mais je vais tout de même expliquer comment on fait de la musique avec ces choses-là. Et je voudrais dire que c'est une chose en soi-même assez extraordinaire que dans un laboratoire comme ça, il y ait tout de même des crédits, des recherches et des gens qui s'intéressent beaucoup à cela, c'est-à-dire à financer des recherches, parce que ce sont des recherches, c'est la division, sur la musique. Il y a beaucoup de gens là-bas, des musiciens très sérieux, qui ont suivi ça de près, en fait. L'intérêt, c'est que des musiciens puissent utiliser ces moyens. Et je dis donc, beaucoup de musiciens pensent que ça peut devenir, c'est déjà dans une certaine mesure, ça peut devenir une chose très intéressante pour la musique. Mais alors, il ne faut tout de même pas se compter des miracles dès le début. C'est vraiment une chose qui est tout à fait dans l'enfance. Et vraiment, on assiste au premier balbutiement de la musique des machines électroniques. Et alors, il faut quand même être circonspect, évidemment. On dira, on est encore loin, au fond, sous certains domaines, de ce que peuvent faire les instruments. Et encore, c'est encore à savoir, mais enfin, dans certains domaines, particulièrement de la richesse du son, ces choses-là, il y a encore beaucoup à faire. Mais justement, c'est le meilleur moyen de le faire, c'est justement d'utiliser ce procédé. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Alors, je ne vais pas dire ce que c'est qu'une machine électronique, sinon que c'est un appareil assez mystérieux avec beaucoup de lumière qui brille et puis qui... Enfin, c'est l'aspect extérieur, mais ce qui se passe dedans, c'est une série d'opérations logiques. Et l'utilité principale de la machine électronique, c'est qu'elle peut faire ces opérations à très grande vitesse. Une série de ces opérations, conçues d'avance, à très très grande vitesse. Elle peut faire, par exemple, des opérations arithmétiques. Elle peut faire une série d'additions, à une vitesse évidemment qui défie tous les inaudits. La même chose, elle peut faire des choix logiques. Par exemple, une instruction de la machine dit par exemple la chose suivante. Supposons qu'il y ait une mémoire où il y a un nombre. Une mémoire, alors ça, les mémoires sont des sortes d'entrepôts dans la machine où on place des nombres. Essentiellement, les machines traitent des nombres, première approximation.
Alors, il y a une instruction qui dit la chose suivante. Si le nombre qui est dans la mémoire intel est positif, ajoutez-le au nombre qui est dans la mémoire intel. S'il est négatif, retranchez-le. Enfin, par exemple, c'est un exemple. Mais avec une série de... Il y a des instructions en somme conditionnelles qu'on peut faire jouer. Et alors, en mettant bout à bout une série d'instructions et en utilisant la possibilité de répétition, on imagine sans peine qu'on puisse arriver à des combinaisons logiques invraisemblablement compliquées. Et on fait, par exemple, ce qu'on appelle des simulations sur ces machines-là. On simule, c'est-à-dire qu'on reproduit bien, aussi bien le fonctionnement d'appareils électriques que, dans une certaine mesure, le fonctionnement des nerfs, ou bien des choses comme ça. Enfin, on fait vraiment un grand nombre de choses. Mais il suffit de considérer que la machine électronique est un appareil qui vous sert à faire des calculs avec une puissance qu'on ne peut pas atteindre autrement, par exemple à la main. Alors, quel rapport avec la musique ? Un son, alors là, je suis forcé d'entrer un tout petit peu dans les détails techniques. Un son, qu'est-ce que c'est ? C'est un ébranlement de l'atmosphère qui se propage. Bon, c'est-à-dire, supposez par exemple le son d'une corde de grave. Corde de violon. Alors, je mets en mouvement la corde de violon. La corde de violon est élastique, elle revient, elle effectue une série d'oscillations qui s'amortissent assez vite. Et alors ces oscillations sont transmises à l'air ambiant, pas seulement par la corde, mais aussi par la boîte. Et ces vibrations sont transmises à votre oreille, et c'est quand les modifications que ça a fait subir à votre oreille se sont transmises jusqu'à votre système nerveux que vous avez conscience du son. Bon, physiquement, le son, c'est un ébranlement de l'atmosphère. C'est une vibration, c'est un, disons, une variation de pression. La pression est approximativement la pression atmosphérique, mais quand il y a un son, il y a une petite variation autour de cette pression atmosphérique, et c'est cette variation qui constitue le son. Alors, je fais par exemple ici un dessin, ça c'est le temps, suivant cette échelle, et mettons, voici par exemple un son très simple. C'est le son, très grossièrement, ça ressemble au son que donne un diapason, approximativement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça représente la pression. Disons que ça, c'est une atmosphère. Une atmosphère, je veux dire, c'est la pression atmosphérique, la pression ambiante. Mais alors, bon, là, il y a une surpression, puis ensuite une dépression, puis une surpression, une dépression. Enfin, c'est cela qui constitue le son. Et ce qu'on appelle le timbre du son dépend de la forme de cette courbe-là. Il y a d'autres données du son. Plus cette courbe est haute, disons, par exemple, voici une autre courbe semblable, mais avec une échelle un peu différente. Alors disons que celle-ci correspondra à un son plus intense que celle-là. Le taux de répétition, la vitesse, en somme, avec laquelle se fait cette vibration, cet ébranlement, correspond à ce qu'on appelle la hauteur du son. Et par exemple, on dit qu'on monte une gamme. Par exemple, c'est les notes, différentes notes d'une gamme sont des notes pour lesquelles les vibrations sonores sont diversement serrées, en somme, à une fréquence diverse. Bon, mais alors, le timbre du son correspond à la forme de cette courbe, en gros. Bon. Comment peut-on faire un son ? Comment peut-on décrire numériquement un son ? Alors ici, j'approxime en somme cette courbe par une série de marches d'escalier. Une série de marches d'escalier, eh bien, si cela est fait avec une finesse suffisante, la différence est virtuellement inaudible. À ce moment-là, on peut spécifier cette courbe par la donnée de ces nombres-là. C'est-à-dire les nombres qui mesurent, si vous voulez, l'écart par rapport à la pression atmosphérique. Nombres qui peuvent être positifs dans ce cas-là, négatifs dans ce cas-là. Alors, j'ai dit qu'il fallait tout de même que cette décomposition, cette approximation par les escaliers soit assez fine.
effectivement, pour avoir, disons, des sons raisonnablement approximés, disons, il faut 10 000 de ces nombres par seconde. Alors évidemment, il y a un moyen de faire des sons, c'est d'avoir 10 000 nombres par seconde qui définissent ainsi une courbe. Alors évidemment, si on veut écrire tous ces sons, c'est un petit peu lourd. Mais alors justement, c'est là qu'est l'intérêt de la machine, c'est que la machine peut traiter ces nombres, peut calculer des nombres comme cela à une vitesse fantastique, enfin une vitesse très élevée, qui permet à ce procédé de devenir pensable. Alors une fois qu'on a ces nombres, en réalité ces nombres sont sous forme de nombres, emmagasinés sous une certaine forme dans une bobine, une bande magnétique. Et alors il y a un appareil qui quand même va transformer ces nombres en sons. C'est un appareillage très simple qui transforme en somme cette série de nombres en un voltage, une tension électrique qui est comme ça. Ensuite on adoucit cela d'ailleurs par filtrage. Et il suffit de brancher ça sur un haut-parleur, et voilà le son. Pratiquement, au lieu de brancher sur un haut-parleur, on le branchera à l'entrée d'un magnétophone et on enregistrera ce que le son, en somme, que véritablement la machine a calculé. Alors, la machine, elle calcule ses nombres en fonction de ce qu'on lui dit. Une machine, c'est parfaitement bête, laissée à lui-même. Et ce qu'on lui dit, eh bien, on lui dit de calculer un son de telle ou telle caractéristique physique. Calculer par exemple ce son très simple qui s'appelle une sinusoïde, ça c'est extrêmement simple. Calculer un mélange de sinusoïdes de fréquence F, 2F, 3F, c'est-à-dire un son pourvu, si on veut, de différents harmoniques. Calculer un son qui s'enfle puis qui se diminue, enfin on peut théoriquement on peut calculer n'importe quel son, c'est-à-dire on peut, après utilisation de l'appareil qui transforme ces nombres en sons, effectivement, on peut réaliser ainsi n'importe quel son, en principe. Et en pratique. Et en pratique, on peut également faire synthétiser par la machine n'importe quel son, à condition d'avoir spécifié à la machine les caractères physiques de ce son. C'est-à-dire, mettons, par exemple, une attaque qui dure tant de temps, ensuite, elle peut avoir un soufflet comme ceci, elle peut avoir un spectre plus ou moins riche en harmonique, etc. Mais alors le problème, c'est que on ne sait pas du tout la relation qu'il y a entre ce son-là et ce qu'on va entendre. Ce qui revient à dire qu'on sait très mal, en somme, la psychoacoustique. On sait très mal la relation entre les caractères physiques du son et l'impression subjective que produit le son à l'audition. Et ce procédé par synthèse illustre ça d'une façon dramatique ou catastrophique, puisque, par exemple, il suffit de prendre un traité d'acoustique, dit-on, pour savoir comment est fait le son d'une trompette ou d'un piano. Et alors, on synthétise ça, et alors on entend quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec une trompette et un piano. Absolument rien à voir. Par exemple, la plupart des traités d'acoustique s'attachent au spectre harmonique, c'est-à-dire, si vous voulez, à la composition en harmonie du son. Savoir si le premier harmonique est prépondérant, le second, etc., quelle est la forme du spectre. Eh bien, si l'on donne, par exemple, à la machine l'instruction suivante, synthétiser un son qui est le spectre du piano. Synthétiser un son qui est le spectre du violon, spectre harmonique du violon, et l'attaque du piano, à ce qu'on entendra, n'aura rien à voir avec un violon, un petit peu à voir avec le piano, certainement beaucoup plus à voir avec le piano qu'avec le violon. Alors ça, on s'en est aperçu depuis déjà bien longtemps. Par exemple, au studio de musique concrète, depuis longtemps, ou même ce que faisait avant la guerre en Allemagne, Jörg Mager ou d'autres sont aperçus qu'effectivement si on coupait l'attaque d'un son, ben, on obtenait une impression subjective qui n'avait plus grand chose à voir avec le son initial. Il y a des problèmes donc de psychoacoustique qui sont à résoudre pour qu'on soit capable d'utiliser avec fruit ce procédé de synthèse. Mais en retour, ce procédé de synthèse est le meilleur moyen justement d'éclaircir ces relations psychoacoustiques. Enfin, c'est un des meilleurs moyens, disons. Parce qu'au fond, tout ce qu'on a à faire, c'est synthétiser des sons de caractéristiques physiques données et écouter
de quoi ça a l'air. Alors ensuite, évidemment, on est amené à des problèmes bien connus, par exemple des phonéticiens, bien connus également des gens qui ont fait de la musique concrète, c'est-à-dire qu'il faut tâcher de classer ça, enfin c'est toute une histoire. Mais je voudrais tout de même commencer par donner un exemple sonore qui montre qu'on peut vraiment déjà synthétiser un ensemble de sons qui ont des caractéristiques physiques assez curieuses. Exactement, je voudrais voir la première vue, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est un escalier, c'est un escalier qui est assez curieux. Vous voyez, on descend toujours. Alors, c'est un escalier un peu tordu, mais avec la machine à calculer, on peut faire des sons aussi tordus, comme par exemple le suivant, enfin les suivants, tout au moins. Série, c'est exactement là. C'est incontestable que de l'un à l'autre ils descendent. Mais il est aussi incontestable que dans l'ensemble, ils ne descendent pas. Psychologique sur le sens de la hauteur. Et alors, certainement, certains d'entre vous se sont un petit peu aperçus de ce qui se passait. Ils ont dit, par exemple, bon, ben, y a un moment où on revient. On revient à l'octave supérieure, enfin, ça s'introduit, ça rentre. Et c'est vrai, par exemple, la plupart des gens se rendent compte qu'après un octave, on rentre en haut.
Oui.
Bon, ceci dit, si on commence sur un Do, ils ont l'impression qu'on rentre en haut sur le Do. Mais si on commence sur un Si, ils ont également l'impression qu'on rentre ensemble, on rentre en haut sur le Si. D'autre part, si on présente, disons, deux sons qui sont espacés de plus d'un demi-ton, comme ça, mettons, à peu près d'un triton, d'une quarte, d'une quinte, qu'on donne ça à des sujets qui soient musiciens ou non, enfin, en particulier des musiciens éclairés, alors, il y en a certains, ils diront toujours, de cette note-là à cette note-là, ça monte, et ils en seront absolument sûrs. Mais alors, d'autres musiciens seront absolument sûrs du contraire. Et généralement même, lorsqu'on est proche du triton, les musiciens eux-mêmes ne font pas une réponse cohérente. C'est-à-dire qu'un jour, ils disent ça monte, et puis l'autre jour, ils disent ça descend. Enfin, alors ça, c'est un moyen, un exemple tout au moins, où les données physiques du son ont été exactement pas calculés pour qu'on puisse trouver des sons faisant cette impression.
Vous voulez qu'on leur passe une fois, il y a sûrement des gens que ça intéressera de réécouter.
Si vous voulez, commencez-vous.
C'est pas très long. Mais
il faudra passer une fois. Si on peut bien présenter le sens de la hauteur par quelque chose qui monte ou qui descend, ne sera sûrement pas suivant une ligne droite, mais suivant quelque chose qui ressemblera plus, à une hélice. Si vous voulez, d'un octave à l'autre, il y a une plus grande similarité que, mettons, d'un octave à la, au triton, par exemple. Et si on se place au-dessus de l'hélice, on voit un cercle. Et si vous voulez, l'astuce va consister à se placer en somme au sommet de l'hélice et au lieu de monter ou de descendre, on tourne. On peut quand même faire des choses plus ordinaires avec l'ordinateur. Enfin, je vais tout de suite passer à l'exemple suivant, qui est une petite pièce d'environ 4 minutes, je crois, d'Orlando Gibbons, qui est un musicien anglais après la Renaissance, et c'est un trio pour flûte douce. Mais alors, ce n'est pas des flûtes douces du tout, c'est la machine à calculer qui les a faites aussi. Et ça, ça s'est fait assez simple, c'est déjà assez ancien. Peut-être certains l'ont entendu sur le disque qui est commercial, qui a été édité. Mais enfin... qui est peut-être un petit peu dénuée d'âme, mais enfin qui est correcte solfégiquement, disons. Et c'est une chose qui peut intéresser les musicologues, parce que ça, c'est une chose où le son n'est pas très recherché, mais il n'est pas non plus peut-être exécrable. Et c'est très simple. Enfin, comment c'est fait du point de vue sonore? Eh bien, on a cherché un peu à imiter la flûte douce, un peu, mais pas imiter exactement toutes les inflexions. En fait, toutes les notes sont pareilles du point de vue physique. Elles sont constituées d'une sinusoïde avec une attaque au début et une décroissance à la fin. Et alors, en même temps que l'attaque, pour imiter le du flûtiste, on a mis un petit peu de bruit, de petites
impulsion de bruit. Et d'autre part, également, pour donner plus l'impression de flûte douce, on n'a pas mis une amplitude bien constante comme ça, mais on lui a affligé une très forte fluctuation de, aléatoire, pas un trémolo en somme, mais une modulation aléatoire, comme le souffle tremblant d'un flûtiste, et avec une très forte proportion, c'est-à-dire que souvent l'amplitude se réduit à plus de la moitié de sa valeur, enfin la fluctuation est très, très large. Alors ça, c'est extrêmement rapide du point de vue, parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé, évidemment, c'est le temps de calculateur, c'est ces machines-là qui coûtent quand même assez cher. Elles sont très rapides, mais leur temps est assez coûteux aussi. Et en temps de calculateur, ça c'est très vite fait. Mais alors, l'intérêt musicologique, c'est que, par exemple, on peut coder la musique pour lui faire subir des analyses, par exemple des analyses statistiques, comme celle dont on a parlé ici déjà. Et une fois qu'on a codé la musique, par exemple, on code la fréquence de la note, on code sa durée, tout ça, eh bien, comment vérifier? On ne va certainement pas mettre la tête dans des kilos, des centaines, des milliers de chiffres. Un des meilleurs moyens, c'est de la faire rejouer par la machine, et si ce qu'on entend correspond, eh bien, on peut admettre qu'on a fait un codage satisfaisant pour ce qu'on se proposait. Et en fait, ça commence à se développer beaucoup. Par exemple, à l'université de Princeton, a été entreprise une grande étude d'une messe de Josquin des Prés. Une étude extrêmement poussée, étude statistique, étude, pour ainsi dire, logique, c'est-à-dire la composition est étudiée du point de vue d'un point de vue extrêmement de logique formelle. Enfin, une étude extrêmement complète et poussée d'une œuvre musicale qui a été choisie comme la messe de Josquin des Prés. Et alors, donc, la première chose qu'il faut faire pour pouvoir se livrer à des analyses sur cette musique, c'est donc de la mettre en code de façon intelligible à la machine. Et pour vérifier ce codage, on la joue un peu de cette façon, enfin pas exactement avec les mêmes sons, mais c'est tout à fait semblable. On peut faire, je voudrais donner maintenant un exemple assez amusant, dont la valeur musicale n'est certainement pas très élevée. Il s'agit d'un air populaire qui est d'abord joué à une seule voix, par un instrument, je peux appeler ça un instrument, enfin, c'est-à-dire une spécification physique à la machine électronique, bon, qui lui fait ressembler un petit peu à, je ne sais pas trop comment dire, ça n'est rien, mais c'est une espèce de, ça ressemble un peu au violoncelle, enfin, tout ce qu'on voudra. Ensuite, c'est repris avec un accompagnement, là, incontestablement, style piano, bien qu'évidemment, personne ne se trompera, d'oreille. Et la troisième reprise est chantée. Mais alors elle est chantée par la machine à calculer. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun être humain qui a parlé. Alors, c'est un des tout premiers exemples d'utilisation de la machine à calculer pour produire de la parole. Ça remonte déjà à plusieurs années et c'est pas très bon. Mais enfin, c'est drôle parce que la machine a un très fort accent électrique. Alors, je crois juste après la fin du, excusez, après la fin du morceau, il y a un petit silence et la machine aura juste un mot à dire. C'est en anglais. Thank you.
assez civile. Je crois qu'elle va encore.
Thanks for listening,
c'est-à-dire merci beaucoup pour votre attention. Bon, enfin ça c'est, ça déborde un petit peu évidemment la question de la parole, mais après tout on peut faire chanter les machines. C'est un peu cher, mais pourtant les Bell Telephone et bien d'autres, la défense nationale dans tous les pays, enfin beaucoup de gens s'y intéressent du point de vue scientifique. Vous avez peut-être entendu parler des vocodeurs, c'est des recherches qui sont en relation avec ça. Une fois qu'on connaîtra mieux la voix, on pourra la coder d'une façon économique et en somme avoir moins de lignes téléphoniques pour le même nombre de communications. Alors ça, comme on manque énormément de lignes téléphoniques à Paris, ce serait pas mal d'arriver à ce que ces recherches aboutissent. Mais je crois que je vais tout de suite aussi passer à la chose suivante qui est une symbolisation d'oiseau. Alors là, c'est une chose très simple. Il y a eu une très belle conférence ici sur le chant des oiseaux. Et alors, essentiellement, ce qui est caractéristique dans le chant des oiseaux, c'est leur sonogramme. Vous avez ici de très beaux sonogrammes qui sont, je crois, de Xenakis ici et de Jean-Sébastien Bach ici. Ceci représente, si vous voulez, la fréquence en fonction du temps. Par exemple, si vous avez une note tenue, elle est comme ça. Si elle est courte, elle sera comme ça. Si vous avez un glissando qui monte, elle sera comme ci, comme ceci. Et alors, dans les chants d'oiseaux, à part quelques bandes de bruit par-ci, par-là, ce qui est plus caractéristique, c'est des glissando comme ça, des choses... Pardon. Alors, ça, c'est très très facile à faire des courbes qui ressemblent à ça. Et en somme, à donner ça, ces courbes comme données au calculateur, et le calculateur produit immédiatement, et alors là, en un temps très, très court, des choses comme ce que vous allez entendre, qui ne cherchent pas à imiter, à s'y tromper les oiseaux, mais enfin certaines y arrivent peut-être quand même. Oui ? La mer, ça. C'est beaucoup plus la perruche. C'est tout. Une des choses qu'on peut faire, mais il est évident que du point de vue musical, par exemple, si on veut moins s'attacher à imiter les oiseaux, on peut tout de même faire des choses comme ça avec des modulations très simples de fréquence pure. Enfin, ça, c'est une simple sinusoïde modulée comme ça en fréquence. Et par exemple, ceux qui connaissent. Certaines œuvres de Gilbert Ami qui est faite avec la petite flûte, bien la grande flûte dans le registre aigu, j'imagine très bien qu'on peut faire comme ça des choses musicalement très intéressantes. L'exemple suivant, cette fois, aborde un peu le problème de la composition par la machine. Enfin, il ne s'agit pas encore de composition, il s'agit vraiment de la première année d'écriture et, disons, de l'harmonie. Ce qu'on a fait, on a donné. Alors c'est quelque chose de plus que la génération du son par la machine. Les sons que vous allez entendre dans cet exemple seront engendrés par la machine, sans précaution d'ailleurs, ils sont sans intérêt, il faut bien dire. Mais ils ont juste l'intérêt de faire entendre la réalisation de la machine, à laquelle on a donné un chant et un certain nombre de règles pour harmoniser ce chant. Et je crois qu'il me manque le couvercle de la bande pour voir, parce qu'on donne parfois la basse pour voir. Oui, pardon. Alors donc, on a donné à la machine un chant, et on lui a demandé de faire des accompagnements note par note. Une note de la basse pour une note du chant. Alors, c'est, faut bien dire, avec des règles très simples qui évitent les intervalles dissonants, qui évitent en principe les quintes consécutives, alors que je crois que dans les premières versions du programme, elles ne les évitaient pas tout à fait. Alors, évidemment, je crois que peut-être on pourrait passer l'exemple maintenant. La première chose que vous allez entendre, c'est la basse, malheureusement. Ce n'est pas le chant donné, c'est une présentation qui n'est pas très bien faite.
et vous allez entendre la basse que la machine a calculée, et ensuite l'harmonie, c'est-à-dire la basse avec le chant. Que la basse est correcte. C'est au fond cette chose n'est pas faite pour la présentation. Il y a un certain nombre d'autres exemples. Je ne sais pas si c'est la peine de les passer tous parce que. Des règles très simples qu'on a fait. On a demandé à la machine de choisir une note qui était soit en intervalle de quinte, tierce, enfin sixte, etc. On lui a également dit de choisir de préférence le mouvement contraire au mouvement direct. Progressivement raffiné un petit peu. C'est peut-être pas la peine de passer tous les autres exemples.
Ça, c'est le chant.
Ça, c'est le chant, oui, c'est ça. Alors, l'intérêt de ces choses, évidemment, c'est pas de remplacer les compositeurs, mais je sais pas si. Là, c'est une basse à deux voix. C'est-à-dire qu'en somme, cette fois, c'est. Être sûr que quand on a donné les règles à la machine, elle les suit. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'on a donné les bonnes règles à la machine. C'est justement très intéressant de savoir quelles règles il est nécessaire de donner à la machine. Et il y a certaines règles qu'il faut lui donner et qu'on ne pense pas à donner aux élèves parce qu'ils ne sont quand même pas si bêtes. Mais... Cette chose, c'est de permettre, pour ainsi dire, une expérience.